VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Bamako, 17h à N'Djamena. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, Goodluck Jonathan, le président sortant du Nigeria, profite de ses dernières semaines afin de se démarquer. Il affirme que son pays n'a pas besoin de l'ONU pour combattre militairement Boko Haram. Morgane Guiriec.
Les Nations Unies feraient mieux de se concentrer sur l'aide humanitaire et la reconstruction sociale du Nigeria. Nous n'avons pas besoin de leur aide militaire. C'est la déclaration choc de Goodluck Jonathan, le président du Nigeria, qui remettra les rênes du pouvoir à Muhammadu Buhari le 28 mai prochain. S'exprimant après avoir reçu jeudi les représentants de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, le président Jonathan a affirmé que les forces armées nigériennes, avec l'aide de celles du Tchad, du Niger et du Cameroun, étaient en passe de reprendre les territoires de Boko Haram dans les provinces de Borno, d'Adamawa et de Yobe, situées dans le nord-est du pays. Selon le chef de l'État sortant, l'armée nigériane a entamé l'ultime offensive pour reprendre le dernier refuge des insurgés dans la forêt de Sambisa, dans l'État de Borno. Et c'est dans cette région que pourraient être retenus les quelques 200 adolescentes enlevées il y a un an à Chibok par les islamistes de Boko Haram, selon les autorités nigérianes. D'après les Nations Unies, plus de 1,5 million de personnes ont été déplacées par le conflit qui a fait plus de 13 000 morts depuis 6 ans.
Des familles de victimes du crash d'Air Algérie survenu en juillet dernier au Mali se recueilleront mardi sur les lieux de l'accident qui avait fait 116 morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère français des Affaires étrangères, cité par l'AFP. Une délégation de ces familles sera reçue lundi à l'Élysée par le président François Hollande. Quelques 200 proches des victimes s'envoleront ensuite pour Ouagadougou à bord d'un avion affrété par la France. C'est ce qu'a précisé l'entourage du chef de l'État. Ces familles seront acheminées dans la capitale burkinabé, de la capitale burkinabé vers les lieux de la catastrophe à bord de moyens militaires français. Au Burundi, au moins 2 policiers ont été blessés, une dizaine de manifestants arrêtés à Bujumbura lors de heurts entre la police et des manifestants. Le point avec Idriss Fall.
Environ 1 000 000 de militants de l'opposition ont tenté de se rassembler dans le centre de Bujumbura. Pour le directeur adjoint de la police, Godfrey Bizimana, ses opposants n'avaient aucune autorisation. La police anti-émeute a donc utilisé des grenades lacrymogènes, des canons à eau. Les manifestants ont répondu par des jets de pierre, entraînant une paralysie dans le centre-ville. 5 partis d'opposition et des dissidents du parti au pouvoir ont lancé mercredi une campagne pour empêcher le président sortant, Pierre Nkurunziza, de se représenter. Monsieur Nkurunziza n'a pas dit clairement ses intentions, mais un congrès de son parti, le CNDD-FDD, est prévu d'ici fin avril pour désigner son candidat à la présidentielle. Selon le HCR, rien que ces 2 dernières semaines, plus de 8 000 Burundais ont fui le pays à cause de la montée de tensions avant les législatives en mai et l'élection présidentielle en juin prochain.
C'est un nouveau rapport de l'ONU qui le dit. Les milliards de dollars tirés des trafics d'ivoire, d'or et de bois financent des dizaines de groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo et ils alimentent les conflits chroniques. Des groupes criminels internationaux militarisés sont impliqués dans des trafics à grande échelle de minerais, d'or, de bois, de charbon et de produits issus de la faune sauvage tels que l'ivoire. Ces produits rapportent jusqu'à 1,3 milliard de dollars chaque année, selon ce rapport du programme de l'environnement de l'ONU basé à Nairobi. La visite du président guinéen Alpha Condé aux États-Unis, après sa rencontre avec son homologue américain Barack Obama, le leader guinéen s'est entretenu avec des sénateurs américains. Le professeur Condé a ensuite accordé une interview à VOA Afrique. Au micro de Nicolas Pinault, il a démenti que les forces de l'ordre en Guinée aient tiré à balles réelles lors des récentes manifestations à Conakry.
Bon, vous savez, l'Ebola est un problème national. Nous avons lancé un appel à tout le monde, les sociétés civiles, les partis politiques, pour qu'on fasse l'union sacrée, parce que l'Ebola c'est une guerre, pour qu'on mène la guerre contre l'Ebola, afin de mettre fin à l'Ebola. Bon, évidemment, il est souhaitable que tout le monde se mobilise d'abord pour mettre fin à l'Ebola, ce qui n'explique pas, parce qu'au moment où on fait l'urgence sanitaire renforcée, normalement, il ne devait pas avoir de manifestation ni de mouvement de foule.
Mais les forces de l'ordre ont-elles tiré à balles réelles sur les manifestants?
Ce n'est pas vrai. Vous regardez les forces de l'ordre, vous pouvez prendre des films, vous avez des collaborateurs là-bas. L'armée est casernée. Et la gendarmerie et la police n'ont pas d'armes. Ils ont des armes non létales, c'est-à-dire des grenades lacrymogènes. Par contre, vous avez des civils qui tirent sur les gendarmes avec des fusils de chasse. Si vous allez, beaucoup de diplomates peuvent vous confirmer qu'ils ont été voir les gendarmes à l'hôpital. Maintenant, je ne sais pas d'où viennent ces informations de dire qu'on a tiré. Dans aucun des hôpitaux, il n'y a eu aucun seul mort. Et la gendarme ne tire pas à balles réelles.
C'était le président Alpha Condé qui répondait aux questions, donc le président guinéen bien sûr, qui répondait aux questions de Nicolas Pineau.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
L'ONU a exigé aujourd'hui un cessez-le-feu au Yémen. Les combats entre partisans et adversaires du président Abdrabo Mansour Hadi et une campagne aérienne arabe contre la rébellion ont fait des centaines de morts dans le pays et provoqué une grave crise humanitaire en près d'un mois. Félix Yepassi Zembrou.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à une trêve immédiate dans le pays en feu. Alors que de nouvelles violences ont fait aujourd'hui au moins 36 morts dans le sud du Yémen où se concentrent les combats. Aidés des militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, les rebelles chiites houthis liés à l'Iran poursuivaient vendredi leur offensive dans cette région après s'être emparés de la capitale Sanaa et de plusieurs provinces du nord, du centre et de l'ouest du pays. Pour tenter de stopper leur progression et de les empêcher de prendre le pouvoir dans le pays, une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, alliée du président yéménite Abdrabo Mansour Hadi, bombarde quotidiennement leur position par les airs depuis le 26 mars. Face à ce drame humanitaire, Ban Ki-moon a souligné qu'il est grand temps de soutenir l'idée de couloirs permettant le passage de l'aide qui sauve des vies et de passer à la paix véritable. Le chaos dans le pays a profité à Al-Qaïda qui s'est emparé jeudi de l'aéroport de Mukalla, chef-lieu de la province du Hadramout dans le sud-est où des tribus infiltrées d'insurgés islamistes ont de leur côté pris le contrôle d'un terminal pétrolier.
Un jeune Américain, frère d'un membre d'Al-Nosra tué au combat, a été inculpé hier, jeudi, ici aux États-Unis, pour soutien matériel au terrorisme après s'être rendu en Syrie pour s'entraîner au djihadisme. C'est ce qu'a annoncé la justice américaine. Les précisions de Félix Yepassi Zembrou.
Abdirahman Sheikh Mohamoud, âgé de 23 ans, avait été arrêté en février à son domicile de l'Ohio, où il était rentré d'un voyage en Syrie en juin 2014 avec l'instruction de commettre un acte terroriste aux États-Unis. Il a été inculpé hier par un grand jury fédéral de tentative et de soutien matériel à une organisation terroriste et à ses membres, ainsi que fausse déclaration au FBI. Il encourt jusqu'à 38 ans de prison pour tous les chefs d'accusation cumulés. Son frère Abdi Fattah Aden, qui réside également à Columbus, dans l'Ohio, a été tué le 3 juin 2014 en Syrie. Il avait quitté les États-Unis en mai 2013 pour rejoindre l'organisation djihadiste selon ce même document.
Quelques 300 parachutistes américains sont arrivés en Ukraine avec pour mission de former les soldats ukrainiens devant combattre les séparatistes pro-russes. Information qui a déclenché, selon l'AFP, la colère du Kremlin qui crie à la déstabilisation. Un peu de football pour finir. L'AZEC Mimosa d'Abidjan se déplace ce vendredi à Bamako dans le cadre de la 8e de finale alliée de la Coupe de la Fédération. Après une semaine de préparation, les jaunes se disent prêts à l'image de leur entraîneur Alain Gouaméné.
Physiquement, ils ont bien travaillé. Tactiquement et techniquement, tout va bien. Donc, on est dans de bonnes dispositions. Nous jouons deux matchs. On va pour faire le premier, mais le premier à Bamako, il faut chercher un résultat. Le plus intéressant, c'est d'aller faire un résultat là-bas. D'autant plus que là-bas, il y a un bon terrain de foot. Et ici, on n'en a pas. Donc, il faut essayer de faire le résultat là-bas. Donc, nous allons travailler, nous allons bosser, que la SEC se qualifie. Et après, si ça peut donner des plus à la Côte d'Ivoire, notre pays, notre cher pays, mais on est tout heureux.
Alain Gouaméné, l'entraîneur de la SEC Mimosa d'Abidjan. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur voaafrique.com et notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'information.